Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Deuxième partie de mon entretien avec Patrick Flandrin, le président de l'Académie des sciences. Dans la première partie, nous avons discuté de sons, de voix humaines. Et maintenant, nous allons écouter Patrick nous présenter le premier enregistrement d'une voix en 1860. Et cerise sur le gâteau, vous entendrez un président de l'Académie des sciences chanter « Au clair de la lune ». Écoute Patrick, je vais te donner quelques minutes pour que tu nous racontes cette belle histoire de Scott de Martinville.
Ah oui, d'accord.
Qui est liée un peu à l'Académie des sciences,
oui, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait.
Raconte-nous cette histoire, elle est tellement belle.
Oui, oui, Scott de Martinville, en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas un scientifique de formation, puisqu'il était typographe, mais il avait le bon goût d'être éditeur des écrits de certains académiciens. Et il avait un projet qui était d'avoir une façon de transcrire la voix humaine. Et son expression, c'était la voix s'écrivant d'elle-même. Mmh. Et l'idée qu'il avait, qui était une idée en fait plus poétique que l'idée qu'aurait pu en avoir un scientifique, c'était de trouver une forme de transcription, quelque part, d'une signature sur un support physique de ce que pouvait être la voix humaine.
Écrire, en quelque sorte. Écrire la voix.
Quoi. Écrire la voix. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, son projet, c'était de l'écrire et pas nécessairement de la reproduire et de la transcrire. Parce qu'il a une histoire qui se croise avec celle d'Edison, qui fait le phonographe. Et en fait, pour ça, il s'est dit...
Donc, on est en quelle année, à peu près ?
C'est 1800, c'est dans les années 1860.
Et Edison, c'est un peu après.
Oui, Edison, ça a été 20 ans après... Le phonographe d'Edison est arrivé 20 ans après. Et ce qu'il avait comme idée, c'était une idée finalement de reprendre un peu ce qu'on fait au niveau du tympan. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit ? Le son, il arrive sur le tympan, il met en vibration le tympan, et ensuite l'information de la vibration, c'est celle-ci qui permet d'être récupérée par le cerveau pour comprendre ce qu'elles sont. Donc lui, ce qu'il fait, c'est un tympan artificiel, donc avec un grand... disons qu'il essaie de l'amplifier avec... Donc, il a ce tympan artificiel, c'est juste une petite surface vibrante qui peut être une plaque, qui peut être. Et derrière cette surface vibrante, il mettait un poil de sanglier, mais enfin bon, il met quelque chose qui sert de stylet. Et ensuite, il fait défiler dessous une plaque sur laquelle qui a été noircie au noir de fumée. Et donc, en faisant ça, quand il y a une vibration qui est transmise au poil de sanglier, cette vibration s'écrit comme une vibration comme une sorte de tracé sur la plaque. Et lui, ce qu'il voulait, c'était, en regardant ce tracé, voir une signature et voir une lecture pour comprendre ou garder trace de ce qui avait été dit.
Il était frustré de ne pas pouvoir la rendre ?
Ah non, absolument pas. Et même, ça, il semblerait que ça ne l'intéressait pas. Et lui, ce qu'il voulait, c'était plus faire finalement de la sténo, en fait. D'avoir un archivage. Par exemple, dans ses écrits, il y a des moments où il parle d'archiver des conversations, que ça prenne des notes d'une conversation entre deux personnes qui discutent. Et puis, par exemple, ce qui est un tout petit peu antinomique de ce qu'aurait fait un ingénieur ou un scientifique. Un ingénieur ou un scientifique, moi, je dirais, s'il veut transcrire la voix humaine et puis essayer de la comprendre et de la lire... il va commencer à dire A, il va dire B, il va dire un truc comme ça. Lui, il commence par des opéras. Et ce qui l'intéresse, c'est aussi d'avoir le sentiment qui est porté par la voix. Donc, il essaie...
Parce qu'il cherche un caractère esthétique.
Exactement.
À ce qu'il écrit.
Voilà. Il cherche un caractère esthétique et ça l'importe que le même message, par exemple, de reconnaître qu'on ait dit fleur, soit dit avec emphase ou soit dit de manière neutre ou des choses comme ça.
Alors, ce qui est intéressant, et je continue un peu l'histoire, c'est qu'à l'Académie des sciences, il y a cette tradition très ancienne et un peu ringarde, il faut bien le dire, qu'on appelle les plis cachetés.
Oui.
Si quelqu'un fait une découverte, c'était le cas de M. Martinville. Oui. Il prend sa découverte, il la met dans une enveloppe,
exactement.
Il la porte au service des archives de l'Académie des sciences, qui ferme l'enveloppe, non, qui ferme pas, puisque l'enveloppe est déjà fermée quand elle arrive. Et puis, l'Académie des sciences reçoit ce document et s'engage à ne pas l'ouvrir pendant 100 ans, histoire de préserver, en quelque sorte, la postérité d'une invention. Et dans le cas présent, ce document a été ouvert 100 ans plus tard.
Oui.
Et on a vu donc ces petites écritures de voix humaine. Et bien entendu, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a envoyé dans un laboratoire d'acoustique, c'est ça ?
C'est ça. Alors, il y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, les plis cachetés, ils peuvent être réouverts à la demande.
Oui.
Voilà, ce qui a été le cas.
Ah.
Puisque, en fait, il a perfectionné son invention avec un vrai ingénieur qui s'appelait Rudolf Koenig, qui lui était un spécialiste de diapason, entre autres, et d'instruments, et qui a transformé cette espèce d'invention vraiment bricolée d'une plaque qui glissait, on avait des sons très erratiques, en un objet qui ressemblait beaucoup au phonographe futur d'Edison, puisqu'il y avait cette fois-ci un cylindre, et puis il avait par exemple une référence de temps, parce qu'évidemment, on faisait tourner le cylindre pour écrire avec une manivelle. Alors, on peut pas dire que la manivelle, ça soit facile d'avoir un rythme très régulier. Donc, il avait une référence de temps fixée par un diapason, qui était une deuxième piste.
D'accord.
Et donc, ça permettait, comme ça, de voir éventuellement des modifications, ce qui a été très utile après, je vais juste le dire ensuite. Et donc, cet ensemble, ça s'appelait le phonautographe.
Le phonautographe.
Et donc, ça a été utilisé pour essayer de comprendre quelques sons, etc. Mais ça a été... Bon, après, l'histoire est très compliquée parce qu'il s'est un petit peu fâché avec Koenig. Il y a eu des histoires brevets.
Et à quel moment est-ce qu'on a ouvert donc la...
Alors après, quand l'invention d'Edison est arrivée, il s'est dit, mais moi quand même,
faut que je montre
que j'avais fait quelque chose qui ressemblait beaucoup, au moins pour la partie enregistrement. Voilà. Et il a conçu une petite amertume parce qu'effectivement, il avait envoyé ses résultats à l'Académie des sciences. Et puis bon, Edison a été reçu en grande pompe pour présenter son phonographe.
À l'Académie des sciences ?
À l'Académie des sciences.
Et lui était au fond de la salle à pleurer.
Et ouais, donc il a... Bon. Donc ça, c'est une histoire humaine qui est un petit peu triste par certains aspects. Mais ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, alors je n'ai plus les dates exactes, mais dans les années très récentes, lorsque ces chercheurs américains se sont dit, mais au fait, ces documents qui dorment dans les archives de l'Académie des sciences, on peut en faire quelque chose, ils sont venus, ils en ont fait des scans à très haute définition. Et finalement, ces tracés, c'est quoi ? C'est exactement le tracé qu'on aurait, comme quand on regarde un sismographe avec un tremblement de terre, on voit une aiguille qui fait un tracé.
Ta voix enregistrée dans ce micro.
Exactement, mais on la transcrit sur un support papier ou autre. Et ils ont scanné à très haute résolution. Ils se sont servis du signal de diapason à côté qui permettait de faire des synchronisations, etc. Et ils ont fait quoi ? Ben, ce qu'on fait tout le temps maintenant, ils en ont fait un signal numérique. Qui était juste une évolution dans le temps d'une amplitude, d'une variation. Alors, ils ont fait un peu de traitement là-dessus, traitement du signal, pour nettoyer, parce qu'il y a des bruits parasites, parce qu'il faut essayer de filtrer de manière un peu plus propre. Et ensuite, c'est là où est la magie d'avoir le signal numérisé, c'est qu'une fois qu'il a été enregistré, cette fois-ci, on peut le réécouter. Donc, cette fois-ci, on met en vibration, c'est le système inverse, donc on met en vibration quelque chose qui est la membrane du haut-parleur, et on écoute, et on entend effectivement Scott de Martinville chanter au clair de la lune.
Je me souviens qu'il y a quelques années, on avait passé cette bande sonore, la plus ancienne voix humaine enregistrée, sous la coupole de l'Institut. Ouais. Je me souviens qu'il y avait une émotion assez nette dans tout le public d'entendre la... Bien sûr, ce n'est pas du qualité haute fidélité,
mais
c'est très, très émouvant.
Tout à fait.
Alors encore une dernière question. On raconte, je ne sais pas quel physicien expliquait que peut-être un jour on pourrait examiner une poterie qui a été faite du temps des Romains, par exemple, et que lorsque le potier faisait son travail, la musique, la voix, alors qu'il était en train de chanter, la voix pouvait s'inscrire en quelque sorte au niveau moléculaire dans la poterie et qu'aujourd'hui, peut-être, on pourrait entendre la voix des anciens d'il y a 2000 ans. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est raisonnable ou...
Alors, ce grand physicien, c'était un très grand physicien, c'était Georges Charpak. Et Georges Charpak, effectivement, avait émis cette idée que vraisemblablement, les potiers des temps anciens chantaient ou parlaient.
Ça, c'est sûrement vrai.
Ça, c'est sûrement vrai. Et que, du coup, si c'était au moment où il gravait quelque chose sur un tour, parce qu'il fallait quand même que l'objet ait une rotation et quelque chose qui permette l'inscription d'un signal, on va dire, de
dans
base.
La, dans sur, la durée, quoi.
Voilà, et sur lequel, à ce moment-là, il pourrait y avoir un mouvement de la main qui soit, et un mouvement de la vibration qui se rajoute et qui mette une sorte de surmodulation sur ce signal-là. Alors, bon, l'idée est magnifique, hein. Ça, c'est évident. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment été testée au sens, même dans des conditions de laboratoire, sans aller chercher les poteries anciennes. Ça pourrait valoir la peine d'essayer quand même. Bon, il y a des petits ordres de grandeur qui montrent qu'en fait, c'est quand même très illusoire d'espérer en tirer quelque chose. Parce que d'abord, il y a un phénomène pur de finesse de la surmodulation qui est dure. Il y a de l'érosion, enfin... De ces supports-là, vraisemblablement, ils étaient relativement tendres et friables. Et est-ce qu'ils ont supporté le poids des milliers d'années? C'est pas évident. Et puis ensuite, quand on regarde ce qu'on a, il faut quand même qu'il y ait un concours de circonstances considérable entre la force d'appui du stylet, la vitesse de rotation de l'objet lui-même et la puissance du son qui est émis pour qu'on imagine qu'il y ait éventuellement quelque chose. Mais bon, l'idée est belle.
Ça fait rêver quand même. Ça fait rêver quand même. Qu'un jour on puisse écouter les grands anciens. Je dis 2000 ans, mais après tout quelques siècles, c'est pas mal non plus.
Hein. Non, bien sûr, oui. Non, mais ça fait partie des choses qui font rêver parce qu'on voit qu'il y a quand même des ruptures qui se sont faites qui font qu'il y a des avant et des après. La première voix enregistrée, je trouve que c'est magnifique et c'est émouvant, c'est ce que tu disais, parce que ça a ce côté politique, poétique, qu'il y a un avant et un après.
Oui.
À partir du moment où c'est devenu banal maintenant d'entendre les voix de tout le monde. C'était vrai de la photographie. Oui. Parce que, bon, Napoléon a raté de peu l'invention de la photographie.
Oui,
on a, voilà. Et c'est vrai que des fois, on se prend à penser que les traces que l'on a, très souvent, enfin, là, je fais une incidente qui n'a pas grand-chose à voir avec le son, mais quand on va dans les musées, très souvent, par exemple, on regarde des collections égyptiennes, des choses comme ça. Ce qui est très émouvant, c'est à côté des trésors, des masques en or, etc., c'est les objets du quotidien.
Oui.
Les objets du quotidien qui sont des cuillères, des fourchettes, des pots, et dont certains, en fait, des flacons, des verres, finalement, sont intemporels parce que c'est des choses, quand on les voit, qui pourraient être des objets
d'aujourd'hui
ouais. et de maintenant et qu'on partage et qui donnent cette forme d'émotion par la proximité dans la distance. Paul Auster, il en parle dans un de ses romans, et il explique effectivement que sur un panier en osier qu'il trouve, il se demande pourquoi cet objet l'émeut, enfin, qu'il voit dans un musée, et il comprend qu'en fait c'est le même que celui qui est en vente dans le magasin d'à côté. Et ce qui est vrai, pour plusieurs inventions technologiques, il y a de ça. C'est-à-dire, à partir d'un moment, on a une possibilité d'accès à des choses qui se sont passées avant. Qu'on n'avait pas pour les choses qui se sont passées avant.
Patrick, je vais te remercier. Je pense que dans la version finale de ce podcast, j'inclurai bien sûr la voix de...
Oui.
Et on est sûr que c'est lui qui chantait ?
Ah ben oui, parce qu'on est pratiquement, pratiquement
moi, en
sûr.
Écoutant
parce
la en écoutant Au clair de la lune, j'ai eu l'impression que c'était une femme qui chantait.
Non, je ne crois pas, parce que... Bon, c'est à noter. Alors, il est vrai qu'il n'a pas... Je crois quand même que c'est... qu'il a laissé la trace Au clair de la lune. A priori, c'est lui qui... C'est lui qui le chante.
Tu me chantes Au clair de la lune ?
Comme lui ?
Allez, vas-y.
Au clair de la lune. C'est à peu près à ce... Voilà.
Voilà. Je pense que c'est la première fois qu'on entendra un président de l'Académie des sciences chanter Au clair de la lune. Ça va rester dans le podcast, je te le garantis. Merci beaucoup, Patrick.
Merci, Étienne.
Petite histoire de science avec Étienne Gis. le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.